J'ai en face de moi France Cardinal Remette. Bonjour France.
Bonjour.
Chroniqueuse ici qui nous parle d'un sujet que je trouve très outillant pour les gens qui nous écoutent. Personnes âgées, les proches de personnes âgées, mais en même temps toute personne qui a affaire à ce fameux système de santé que l'on a ici. Comment on se prépare à un rendez-vous médical? On va aborder plein de questions aujourd'hui, France, par rapport à ce sujet. Mais j'ai l'impression que de bien se préparer à un rendez-vous médical, c'est de plus en plus important.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai fait ma recherche et puis je me suis rendu compte, bon, le CHUM a émis des données qui m'ont vraiment renversée. On dit que plus de 50 % de la population est atteinte d'une maladie chronique en Amérique du Nord. Bon, ça, on s'en doutait, on en parle beaucoup. Alors, on parle du diabète, des maladies respiratoires chroniques, des affections cardiaques, le cancer et autres. Mais 80 % des utilisateurs d'Internet recherchent des informations reliées à la santé sur le web.
Oui.
Pourquoi? Pour se renseigner, pour se soigner soi-même ou pour valider un diagnostic, se préparer à poser des questions? Bon, on ne le disait pas, mais tout de même.
Se faire peur un petit peu.
Peut-être, mais on voit qu'il y a un intérêt quand même hein, par rapport à sa propre santé.
Oui.
Ensuite, bon, plus de 50 % des personnes qui consultent et qui ont un plan de traitement ne le respectent pas ou peu. Alors, les ordonnances médicales, entre autres, là, sont
oui.
peu ou pas respectées. Pourquoi? Hein, la grande question, mais pourquoi? Alors, écoutez, trop souvent, là, parce que la personne se sent peu impliquée lors de la consultation médicale, malheureusement, les gens sont restés dans le modèle du médecin paternaliste.
Oui.
Nous, on a évolué dans le milieu de la santé. On est allé vers l'approche centrée sur le patient. Mais maintenant, on s'en va vers une nouvelle approche, le patient partenaire. Alors, le CHUM, entre autres, est un grand leader dans cette nouvelle approche où on implique la personne vraiment à prendre des décisions par rapport à ce qui va se passer pour sa santé, ses soins, ses traitements. Des fois, il y a des options de traitement, alors on l'invite
ouais.
à choisir. Évidemment, il y a d'autres milieux qui le font, là, pas seulement le CHUM, même je parlais du CHUM parce qu'ils ont fait des documents. Je suis impliquée, moi, avec des patients partenaires. Et ils vont même plus loin, ils ont des patients ressources. Alors, les patients ressources les conseillent. Alors, c'est des gens qui sont passés à travers le système de santé et qui ont vu des écueils, des difficultés. Alors, ils les expriment et le CHUM travaille avec eux pour trouver des solutions. Alors, il y a quand même, c'est encourageant hein, d'entendre ça.
J'entendais, France, dernièrement, une médecin de famille parler de tout ce que l'on ne dit pas à notre médecin de famille, mais les mensonges qu'on ne devrait pas émettre, finalement, et qui peuvent même être dangereux pour notre santé, à savoir les produits naturels aussi que l'on consomme, on doit les nommer. Ne pas mentir sur nos habitudes de vie. Si on fume, on doit le dire. Si on boit de l'alcool, de pouvoir chiffrer la consommation de drogue, la même chose. On a tendance aussi à mentir à notre professionnel de la santé.
Oui, oui, c'est sûrement. On observe ça à tous les jours. Par contre, comme tu le mentionnes, c'est pas la bonne route à prendre.
Mais non.
Non,
oui.
Non, vraiment pas. Il faut justement prendre sa place. Et puis, les milieux sont beaucoup plus ouverts qu'on le croit. Le médecin, il voit beaucoup de personnes. On parle de consommation d'alcool, mais il y a plusieurs qui prennent un petit verre de vin avec leur repas le soir. Là, c'est plus un sujet tabou comme ça l'était peut-être il y a 30
oui.
ou 40 ans. Là.
Et comme vous le disiez, de voir notre médecin d'une façon paternaliste, on n'en est plus là. Les relations ont évolué
oui.
et on peut penser que notre médecin a l'ouverture d'entendre ce qu'on a à lui dire
absolument.
Sur nos habitudes de vie. Et quelque chose de très intéressant aussi que vous avez mentionné, c'est qu'on a le droit de faire partie prenante de ces soins de santé et de prendre notre santé en main.
Oui, c'est même dans la loi sur la santé et les services sociaux. Alors oui, mais évidemment, les milieux sont très ouverts parce que ils vont gagner. Si le client est vraiment engagé dans ses soins, bien, tout le monde gagne. Hein? C'est des solutions gagnantes. Maintenant, tu m'amènes sur un terrain, là, quand on parle des habitudes de vie.
Oui.
Évidemment, c'est une autre observation qui est faite, c'est que les gens, même s'ils ont un diabète, un problème au niveau cardiaque, ils veulent revenir à leurs habitudes puis à leur vie d'avant.
Ouais.
Alors, dans la façon de s'alimenter, de fonctionner, les activités physiques, il y en a qui en font très peu puis n'ont pas pas vraiment le goût de s'engager à ce niveau-là. L'usage de tabac, on en parlait, mais c'est important d'ouvrir là-dessus parce qu'il y a des compromis qui peuvent être faits. On peut négocier ses soins avec le médecin et l'équipe de soins. Ça aussi, c'est un avantage.
Ah oui.
Maintenant, l'autre élément qui est très important, c'est que, entre autres, quand on apprend un diagnostic qui nous bouscule intérieurement, il faut absolument prendre un temps d'arrêt pour se demander ce que l'on veut accomplir, là, puis où on en est dans notre parcours de vie, puis qu'est-ce que ça nous fait intérieurement d'avoir appris cette nouvelle-là. C'est important d'avoir ce temps d'arrêt-là, ne serait-ce que d'aller prendre une promenade à l'extérieur et de réfléchir aux émotions, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des émotions. Il peut y avoir du déni, de la colère, on peut se sentir déprimé, notre estime de soi peut être atteinte. Il y a plein de choses qui surviennent et c'est normal, c'est très normal.
Vous parlez aussi, France, du plan d'intervention. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bon, le plan d'intervention, c'est un document, c'est notre dossier. Hein, ça s'est inclus dans le dossier, mais c'est un document officiel dans lequel vont être notées les problématiques qu'on a, les options de traitement, le traitement qui est suggéré et qui est accepté par le patient. Évidemment, tous les résultats d'analyse sont inclus aussi dans le plan d'intervention. Mais le plan, c'est surtout des objectifs à atteindre. Alors, les objectifs à atteindre, bien, il faut qu'ils soient en lien avec le projet de vie de la personne. C'est dans ces termes-là qu'on le verbalise aujourd'hui. Alors, si la personne a l'habitude, par exemple, de voyager beaucoup puis elle ne veut pas renoncer à ses voyages, bien, il y aura peut-être des compromis par rapport aux rendez-vous qu'elle aura à prendre par la suite. C'est un exemple.
C'est là qu'on peut négocier. Si notre médecin nous dit, par exemple, vous devriez arrêter de fumer, si on lui dit, ben, je ne suis pas prêt, est-ce que je peux réduire? Est-ce qu'on peut s'entendre sur, bon, X nombre de cigarettes ou consommation d'alcool ou pour la nourriture, même chose? C'est le moment d'exprimer nos limites à notre médecin.
Oui, puis peut-être qu'il va arriver avec des solutions auxquelles on n'a pas pensé.
C'est vrai.
Des solutions qui sont inconnues de nous, mais qui sont bien connues dans le milieu et qui peuvent fonctionner et qui peuvent nous satisfaire.
Oui.
Alors, c'est très important, effectivement.
Il faut rappeler qu'on a ses compétences et ses habiletés de comprendre et de s'investir dans ce plan d'intervention.
Tout à fait. Et c'est nous qui sommes les détenteurs des expériences qu'on a vécues, de notre vécu antérieur par rapport à notre culture, nos habitudes familiales. Il y a plein d'éléments là, qui se sont imprégnés dans notre parcours de vie et qui vont ressortir au moment où on apprend qu'on a un problème de santé. Alors, il faut en tenir compte. Aussi, pour la visite médicale, c'est important de se faire accompagner, de faire une liste, de se préparer, avoir une liste de questions qu'on veut poser. On l'a mentionné tantôt, être un partenaire actif dans ses soins, puis aussi identifier son réseau. Si on a un problème de santé chronique et qu'on a besoin de l'aide d'autres personnes, bien, d'identifier c'est qui mes proches, c'est qui peut m'aider, puis comment ces personnes-là peuvent m'aider. Très important, on s'en va vers cet angle-là dans le futur, parce qu'on le sait, hein, la population vieillissante et les problèmes de santé chronique vont se multiplier parce qu'on vit plus longtemps. Alors, on ne parle pas d'un problème de santé chronique, on parle de plusieurs, souvent, problèmes de santé chronique.
Oui.
Alors, c'est important d'avoir un réseau autour de nous pour nous supporter. Nous aussi, on va supporter d'autres personnes, mais il y a des personnes qui peuvent nous supporter. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Et de penser que le réseau de santé est un réseau aussi, c'est-à-dire que le médecin travaille souvent avec une équipe multidisciplinaire. Ces gens-là sont aussi là pour nous aider et on pense souvent que le médecin ou... son équipe n'a pas le temps pour nous. C'est aussi de changer cette idée-là.
Tout à fait. Il faut s'affirmer, se préparer, faire connaître nos attentes, nos besoins. C'est important de prendre sa place, de se responsabiliser par rapport à ça. Puis un élément que j'ai oublié de mentionner plus tôt, mais qui est vraiment l'élément numéro un, il faut établir une relation de confiance avec son médecin, avec l'équipe de soins. Mais c'est le premier souvent qu'on va voir, hein, le médecin. Et si on n'a pas confiance, on sent que la communication ne passe pas, qu'on n'a pas le goût de suivre le traitement qu'il nous suggère parce que ça ne nous convient pas, peut-être qu'il faut penser à changer de médecin. Ça peut être une option aussi, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas.
Et qu'on a le droit de poser des questions sur le traitement qui nous est suggéré, bien sûr, ça fait partie beaucoup de l'actualité dernièrement avec ce qui s'est passé. On pense à José Blanchette, à Tout le monde en parle, sur ce qui est de la chimiothérapie, radiothérapie en cas de cancer. On peut poser des questions, tenter de comprendre. On a un libre choix aussi par rapport à
ça. Moi, ce que j'ai compris de ce discours-là, c'est que dans le fond, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. On ne veut pas des traitements pour rien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je veux tout essayer, même s'il y a 2% de chances que ça fonctionne, je veux l'essayer. Ces gens-là ont le droit de l'essayer. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, j'en ai assez. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, j'ai eu 3 traitements de chimiothérapie, j'ai un cancer du sein, et si on m'en offre un 4e, je vais dire non. Puis c'est correct aussi. Alors, il faut se respecter, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Le genre de questions qu'on peut poser, j'en avais écrit quelques-unes. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les partage.
Oui, on a encore un petit peu de temps, France.
Bon. Alors, on peut dire, j'ai besoin de plus d'explications car ce n'est pas clair. Hein? On peut demander ça. Dois-je subir d'autres tests? Quand? Quelles sont mes options de traitement? Lesquelles recommandez-vous et pourquoi? Quels sont les taux de succès du traitement choisi pour le même type de maladie pour mon groupe d'âge? Habituellement, là, qu'est-ce que ça donne, ces traitements-là?
Mon groupe d'âge et mon genre, mon sexe.
Aussi.
Si je suis une femme, si je suis un homme.
On
peut
fait.
Vraiment aller dans une précision de question. Je pense qu'on oui. a même intérêt à le faire.
Tout à fait. On peut parler des effets secondaires. Quels seront les effets secondaires habituels là, pour ce traitement-là? Quels symptômes peuvent survenir? Est-ce qu'on va m'aider avec ces symptômes-là? Est-ce qu'il y a des complications? Qui va assurer le suivi de ma situation en cas d'urgence ou en cas de besoin? Est-ce qu'il y a une personne contact qui peut m'aider à cheminer à travers tout ça?
Mm-hmm.
Alors, évidemment, au niveau des professionnels de la santé. Dans certains milieux, il y a des infirmières pivots et ces infirmières-là donnent même leur carte d'affaires aux patients qui viennent consulter et on dit en cas de besoin, appelez-moi. Alors, il y a des options.
Et on n'hésite pas à parler de nos symptômes. Je reviens avec cette médecin de famille qui parlait des mensonges souvent émis dans son cabinet. C'est sur le niveau de douleur. On doit dire, on a mal de façon précise. C'est quoi nos symptômes, nos effets secondaires
tout
aussi?
Tout à fait, tout à fait. Et même, je peux dire, vis-à-vis de la maladie grave, entre autres, des gens qui souffrent d'un cancer, quand ils commencent à avoir des symptômes et de la douleur, comme tu le mentionnes, c'est très important d'en parler. Parce qu'on peut introduire des mesures thérapeutiques pour soulager les personnes précocement. Alors, même dans certains cas, on peut parler de soins palliatifs quand on parle de maladies assez sévères, mais on peut les introduire pas seulement à la fin de la vie, là, les soins palliatifs. Maintenant, on dit qu'on doit les introduire le plus rapidement possible. Ça peut être un an avant qu'on pense que l'état va vraiment se détériorer. On le fait pour la qualité de vie de la personne, pour la rendre plus confortable, et justement éliminer tous les symptômes et la douleur.
France Cardinal Remette, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, ça a été tellement éclairant. On rappelle, vous avez été infirmière pendant de nombreuses années. Vous continuez à enseigner à de futures infirmières. Donc, vous étiez vraiment très bien placée pour nous parler de ce sujet-là. Ça a été grandement apprécié. Merci.
Merci beaucoup.